La chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Tentative pour prolonger l'été. Un jour de semaine, en septembre, il fait beau. Une plage presque déserte. Trois pêcheurs à pied sur les rochers. Un voilier. Et après une bonne baignade dans une eau à peine fraîche. Un livre. Édouard Abbey, Désert solitaire. Édouard Abbey, c'est cet auteur américain, notamment du Gang de la clé à molette et de bien d'autres livres. Et ce désert solitaire est, comme le petit sticker l'indique sur cette édition Gallmeister, culte depuis 50 ans. Récit autobiographique de son séjour dans le parc national des Arches à la fin des années 50, puis une dizaine d'années après. Et son constat effroyable de l'écocide en cours déjà. C'est d'ailleurs dans tous les livres d'Édouard Abbès qui va revenir son combat contre le désastre écologique et contre l'impact humain. Le livre est traduit, comme tous ceux d'Édouard Abbès, aux éditions Gallmeister par Jacques Mayos, qui sera invité du festival Nature Nomade organisé par la Géothèque à Nantes aux alentours du 6, 7, 8 novembre prochain au Muséum d'Histoire Naturelle. On en reparlera. Je commence le livre. Voici le deuxième chapitre, Solitaire. Premier jour encore, 1er avril ici, au centre. Merle Macrae et Floyd Benz, le directeur et le ranger en chef, arrivent à midi avec 500 gallons d'eau dans un camion-citerne et un pick-up du service des parcs, équipé d'une radio à ondes courtes, d'outils de lutte contre les incendies, d'une corde d'alpiniste, d'une pelle, d'une chaîne de traction, d'une trousse de premier secours, d'un brancard, d'une hache, etc. Ils me laisseront le pick-up et tout son équipement. Je dois l'utiliser pour patrouiller sur les routes du parc, porter assistance aux touristes en difficulté, ainsi que pour livrer du bois au camping et collecter leurs ordures. Une fois par semaine, je peux m'en servir pour aller au siège, à Moab, faire le plein d'essence et de ravitaillement. Nous remplissons le réservoir d'eau enterré dans la colline au-dessus de la caravane et déjeunons au soleil autour d'une table de pique-nique en bois installée devant ma porte. Merle, le directeur, le patron, est un homme svelte et rassé d'une cinquantaine d'années, au visage fin, sérieux et expressif, buriné mais pas endurci, par presque toute une vie passée dehors. Il est né et a grandi dans un petit ranch du Nouveau-Mexique, a étudié à l'université de Virginie, puis gagné sa vie comme éleveur de bétail, employé dans un ranch-auberge, directeur d'un centre d'aide par le travail et de protection de la nature pendant la Grande Dépression. Et depuis 1940 comme ranger pour le service des parcs nationaux. Il me fait l'impression d'être quelqu'un de doux, de généreux et d'une bonne humeur inoxydable, mais il se plaint également, gentiment, de l'hypothétique ulcère que les années passées à se battre avec la paperasserie administrative ne manqueront pas de lui valoir. Il est marié et a trois enfants. L'aîné étudie à l'université de l'Utah. Floyd Benz est un homme grand et puissant d'environ 30 ans, archéologue de formation, marié, deux enfants. Eu égard à ses centres d'intérêt et à son cursus universitaire, il devrait travailler dans un endroit comme Mesa Verde ou Chaco Canyon, à fouiller des ruines poussiéreuses. Mais il se satisfait de sa situation présente, tant qu'il est libre de passer au moins une partie de son temps hors de son bureau. Les deux choses qu'il redoute le plus en tant que fonctionnaire du service des parcs sont la promotion à un poste de cadre administratif à gros salaire et la mutation vers l'Est dans un des parcs historiques à boulets de canon comme Appomattox ou Gettysburg ou Ticonderoga. Comme moi, il préférerait vivre en se serrant la ceinture dans l'Ouest plutôt que prospérer et s'étioler dans l'Est sibérien. préférence violente et vouée à la perte. Mais là, dans l'air étincelant sous le grand soleil du désert de l'Utah, les mauvaises nouvelles semblent fort lointaines. « Alors, Ranger Abbey, » dit Merle, « vous vous plaisez dans ce coin perdu ?» Je réponds que ça me convient. Il sourit. « C'est un peu solitaire, non ?» demande Floyd. Je réponds que ça va. Après le repas, nous montons tous les trois dans la cabine du pick-up gouvernemental et faisons le tour du parc. Arches National Monument est encore ce que le service des parcs appelle une aire sous-développée, bien qu'à moi elle paraisse développée juste comme il faut. Le réseau de routes amène à distance de marches confortables de la plupart des grandes arches. Aucune d'entre elles n'est à plus de 2 miles du lieu de stationnement. Certes, ces routes ne sont pas goudronnées, mais elles sont facilement praticables avec n'importe quelle voiture, sauf pendant ou juste après un orage. Les pistes sont bien indiquées, faciles à suivre. Il faut le vouloir pour se perdre. Il y a 3 petits campings équipés de tables, de lieux aménagés pour faire du feu, de poubelles et de toilettes de campagne. Emportez votre propre réserve d'eau. Nous fournissons même le bois pour le feu sous forme de bûches de pin et de vieux poteaux de clôture en cèdre qu'il sera de mon ressort de trouver et de livrer aux campeurs. Nous roulons sur les routes de terre et marchons sur certaines pistes. Tout est beau, sauvage et baigné d'une douceur virginale. Les arches elles-mêmes, étranges, impressionnantes, grotesques, forment une part petite et inessentielle de la beauté générale de ce pays. Lorsque nous pensons roches, nous pensons d'ordinaire aux pierres, aux rochers brisés, enfouis sous le sol, et la vie végétale. Mais ici, tout est exposé et nu, avec une dominante de formation de grès monolithique qui se dresse hors de la surface de la terre et s'étend sur des miles. Parfois à l'horizontale, parfois de manière oblique et chaotique, sous l'effet des forces souterraines qui les firent affleurer, avant d'être sculptés par l'érosion en un labyrinthe complexe de vallées, grottes, failles, boyaux étroits et canyons profonds. À première vue, ce paysage semble un vaste chaos géologique, mais il y a de la méthode derrière tout ça, de la méthode d'un genre fanatique et acharné. Chaque rainure dans le roc mène à un sillon naturel d'un genre ou d'un autre. Chaque sillon mène à une rigole, puis à un fossé et à une ravine, lit d'écoulement chaque fois plus grand jusqu'à un fond de canyon ou un large arroyo menant à son tour au Colorado et à l'océan. Comme prévu, la neige a maintenant fondu et tous les cours d'eau du parc sont secs à l'exception de Salt Creek, l'unique torrent pérenne alimenté par une source. C'est un ruisseau limpide de quelques pouces de profondeur qui traverse des bancs de sable mouvants et des plats de glaise couverts de blanches croûtes d'alcali. Bien qu'elle ait l'air potable, cette eau est trop saline pour l'homme. Les chevaux et le bétail peuvent la boire, mais pas les hommes. C'est du moins ce que me disent Merle et Floyd. Je décide de tester leur croyance par moi-même. Je m'accroupis au bord du ruisseau, y plonge mes 2 mains jointes en coupelle et bois une petite gorgée d'eau. Franchement mauvaise, ni potable, ni buvable. Un homme pourrait peut-être, suggérais-je, s'habituer à boire cette eau en en prenant juste un peu chaque jour et en augmentant progressivement la dose. Essaye donc, dit Merle. Ouais, dit Floyd, et fais-nous ton rapport avant de partir. En fin d'après-midi, nous regagnons la caravane. Floyd me prête une chemise de Rangers dont il me dit qu'il n'a plus l'usage et que je devrais porter en guise d'uniforme pour me donner une sorte d'allure officielle vis-à-vis des touristes. Il y a aussi le badge argenté que je suis censé épingler à ma chemise. Ce badge me confère le droit d'arrêter les contrevenants et les voyous, m'explique Floyd. Ou qui je veux, en fait. Je mets donc immédiatement Floyd et Merle en état d'arrestation et leur ordonne de dîner avec moi. J'ai une grosse cocotte de haricots rouges qui mijote sur le feu, mais ils refusent. Ils ont des promesses à tenir et doivent s'en aller. Et bientôt, ils roulent dans le camion-citerne sur la route rocailleuse qui mène à la 4 voies et à Moab. Je monte la côte derrière ma caravane et les regarde partir. Leur camion demeure visible sur à peu près 1 mile avant que la route n'oblique pour s'enfoncer plus profondément dans le dédale de dunes, monolithes érodés et crêtes abruptes à l'ouest. Environ 10 miles au-delà de la grande route se dressent les pentes d'éboulis et les falaises rouges verticales de la Dead Horse Mesa, île déserte céleste toute plate qui s'étire sur 40 miles du nord au sud entre les canyons convergents de la Green River et du Colorado. Domaine public. Au-dessus de la mesa, le soleil brille en suspens entre des langues et des haillons de nuages fouettés par le vent. Il y aura encore des orages. Mais pour le moment, chez moi tout au moins, l'air est calme et je saisis pour la première fois de la journée l'immensité du silence dans lequel je suis perdu. Ce n'est en fait pas tant un silence qu'une grande quiétude, car des bruits, il y en a. Cris d'un oiseau caché par un genévrier, petit tourbillon de vent qui passe et s'évanouit comme un soupir, tic-tac de ma montre, petit bruit qui rompt l'impression de silence absolu, tout en aiguisant mon ressenti de la vaste et implacable paix qui m'entoure. Temps suspendu, présent perpétuel. Si je regarde le petit appareil que je porte bouclé à mon poignet, les chiffres et même la grande aiguille au mouvement ample semblent presque ridicules d'avoir perdu tout sens. Nul voyageur, nul campeur, nul vagabond n'est venu dans ce coin de désert aujourd'hui. Et l'espace de quelques instants, je sens et comprends que je suis vraiment très seul. Je n'ai rien d'autre à faire que retourner à ma caravane, ouvrir une canette de bière et manger mon dîner. Après quoi je mets un chapeau, enfile un manteau et ressors, m'assieds sur la table, regarde le ciel et le désert se dissoudre lentement dans le mystère et la chimie du couchant. Il nous faut un feu. Je fouille autour de la caravane, ramasse quelques branches mortes sous les genévriers et prépare un petit feu de squaw pour me tenir compagnie. Des nuages noirs traversent les champs d'étoiles, étoiles souvent puissantes et proches, à l'éclat glacé dans des tons de bleu, d'émeraude et d'or. Là, là-bas, étendus sous mes yeux vers le sud, l'est et le nord, les arches et les apics et les pinacles et les rochers de grès en équilibre, désormais placés sous ma tutelle, ont perdu la chaude lueur rouge du couchant pour virer à des teintes douces, intangibles, innommées et innommables, de violet, teintes qui semblent non pas les recouvrir mais irradier de leur cœur. Une planète jaune flotte à l'ouest, plus brillant des objets célestes, Vénus. J'ouvre grand mes oreilles et l'écoute d'un cri de chouette ou d'engoulevent, mais n'entends que le crépitement de mon feu, qu'un bref souffle de vent. Le feu, l'odeur du genévrier qui brûle est la plus belle odeur du monde, à mon humble avis. Tous les encensoirs du paradis de Dante, je pense, me parviennent à l'égaler. Comme la fragrance de la sauge après la pluie, une simple bouffée de fumée de genévrier suffit à évoquer par une sorte de catalyse magique, comme en produit parfois la musique, l'espace, la lumière, la clarté et l'étrangeté poignante de l'Ouest américain. Dieu fasse que cette fumée dure. Mon petit feu ondule, vacille, commence à mourir. Je brise une autre branche de genévrier contre mon genou et pose les morceaux sur le tas de braises. Un filet de fumée bleutée s'en élève, et le bois, sec comme le roc d'où il vient, s'épanouit en longues flammes. Va, mon encens, élève-toi haut et loin de ce foyer, et prie les dieux de pardonner cette flamme limpide. C'est un extrait de Walden, d'Henry David Thoreau. J'attends et j'observe. Je garde le désert, les arches, le sable et la roche nue, les genévriers solitaires et les touffes de sauge éparses qui m'entourent dans le silence et la simplicité sous les étoiles. Le feu faiblit de nouveau, je le laisse mourir, prends mon bâton de marche et pars me promener le long de la route dans l'obscurité de plus en plus épaisse. J'ai avec moi une torche mais je ne l'allumerai pas, sauf si j'entends un signe de vie animale qui vaut que j'y regarde de plus près. La torche électrique est un instrument utile dans certaines situations, mais je vois suffisamment bien la route sans elle. En fait, je la vois mieux. Il y a un autre inconvénient au fait d'utiliser la torche comme nombre de gadgets mécaniques. Elle tente à faire écran entre l'homme et son environnement. Si je l'allume, mes yeux s'adapteront à elle et je ne verrai plus que la petite flaque de lumière qu'elle projettera devant moi. Je me retrouverai coupé du monde. En laissant ma torche dans ma poche, à sa juste place, je continue à faire partie de l'univers dans lequel je marche. Et ma vision, bien que limitée, n'a pas de frontières nettes ou prédéfinies. Cette limite inhérente aux machines m'apparaît doublement évidente lorsque je rentre dans ma caravane. J'ai décidé d'écrire une lettre à moi-même avant de me coucher, et plutôt que d'allumer une bougie, je vais lancer le vieux groupe électrogène. C'est un petit moteur 4 cylindres à essence monté sur un trépied de bois, pas très loin de la caravane. Pas du tout assez loin à mon goût. J'abaisse la manette des gaz, règle le starter, engage la manivelle et donne un premier tour. Le moteur crachote, hoquette, démarre, prend de la vitesse, s'emballe en hurlant, soupape très sautant, bielle tempêtant, piston sifflant, en allant et venant dans leur cylindre huilé. Parfait. Le courant jaillit dans les fils, dans la caravane, les ampoules commencent à luire, puis brillent de plus en plus fort en gagnant en incandescence. Les lumières sont si puissantes que je n'y vois rien et dois protéger mes yeux d'une main alors que je me dirige en trébuchant vers la porte ouverte de la caravane. Et je n'entends rien d'autre non plus que le grondement de l'engin. Je suis coupé du monde naturel et hermétiquement emprisonné dans une boîte de lumière et de bruit tyrannique. Une fois à l'intérieur de la caravane, mes sens s'adaptent à la nouvelle situation et bientôt, tandis que j'écris ma lettre, j'oublie les ampoules et la plainte du moteur. Mais je me suis complètement coupé du plus vaste monde qui entoure ma coquille manufacturée. Le désert et la nuit ont dû reculer, battre en retraite. Je ne peux plus les observer ou interagir avec eux. J'ai troqué un monde majestueux et virtuellement illimité pour un autre, petit et pauvre. Volontairement, je ne le nie pas. Ce troc est temporairement pratique et réversible à mon gré. Ma lettre finie, je sors éteindre le groupe électrogène. Les ampoules faiblissent et s'éteignent. Le martèlement furieux des pistons cesse en un dernier soupir. Debout, à côté du moteur inerte et impuissant, j'entends les dernières vibrations mourir comme des vaguelettes à la surface d'une poche d'eau perdue au loin, quelque part dans le quiet océan du désert, quelque part au-delà du délicat Hirsch, au-delà des terres vaines de Yellowcat, au-delà de la frontière de l'ombre. J'attends. Maintenant, la nuit revient à flot, le silence tout-puissant m'étreint et m'englobe. Je vois de nouveau les étoiles et le monde qu'elles font luire. À plus de 20 miles de mon contemporain le plus proche, ce n'est pas de la solitude que je ressens, mais de la béatitude. Une béatitude à la fois douce et exaltée. C'était un petit chapitre de « Désert solitaire » de Edward Abbé, traduit par Jacques Mayos pour les éditions Gallmeister, un récit publié pour la première fois aux États-Unis en 1968. On écoute Colorado, Neil Young and the Crazy Horse.
When you see those geese in the sky, think of me. I can spread my wings and fly just like them. I can gallop across your open prairie while I dive below your deepest sea. Think of me. I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window. To do. across your